14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Tiens, on va dire bonjour à un auditeur qui appelle 3210, Cédric. Bonjour Cédric.
Bonjour, bonjour à tous.
Carlos Tavares, le PDG de Stellantis. Ça s'en fait des marques. Stellantis, c'est Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Citroën, Jeep, Dodge. Qu'est-ce que j'ai pas cité? Peugeot, bien sûr. Maserati, Opel, Lancia. Bon, 36 millions d'euros de rémunération, son salaire va doubler. Réaction, Cédric.
Alors, je suis pas choqué par la rémunération en tant que telle. En revanche, il serait bon que les employés en profitent aussi un petit peu.
Oui, le groupe, c'est près de 240 000 employés dans le monde, d'ailleurs. On en parle avec vous. Restez, Cédric. On ouvre le débat dans un instant. Tout de suite, c'est le rappel des titres avec Agnès Bonfillon.
L'histoire olympique en marche, la flamme en route. Celle-ci a été allumée ce matin à Olympie, en Grèce, dans le Péloponnèse très exactement, déjà porté par plusieurs relais, dont Laure Manoudou. Eh bien, cette flamme arrivera le 8 mai à Marseille, à bord du Belém. Une riposte israélienne aura bien lieu après les attaques iraniennes de ce week-end. Quand, comment, c'est désormais la question. Benjamin Netanyahou réunit en ce moment même pour la troisième fois son cabinet de guerre. Le président iranien prévient, la moindre action d'Israël contre les intérêts de l'Iran provoquera une réponse sévère, étendue et douloureuse. Fin de citation. Le match est à suivre en direct et en intégralité ce soir sur RTL dès 20h45. Un match événement pour le PSG qui joue son va-tout à Barcelone. Les Parisiens doivent absolument gagner avec deux buts d'écart ce soir. Sinon, adieu la demi-finale de la Ligue des Champions. Côté météo, Claire, ça se rafraîchit pour le week-end dernier. C'est très très loin, tout ça.
C'est sûr que ça paraît très loin. Et c'est vrai que c'est l'anticyclone qui est en marche de l'Atlantique, qui pilote donc du flux de nord. Et donc qui dit flux nord dit air beaucoup plus frais. Donc ça se traduit cet après-midi par 11 degrés à Paris, 11 degrés à Lille, 12 degrés à Brest, 13 degrés à Dijon. Ça peut grimper jusqu'à 16 degrés du côté de Auch, voire 20, 22 degrés en Méditerranée. Côté ciel, bien là, cette région, elle sera particulièrement dégagée avec du soleil, mais au prix du vent, ça va souffler fort également cet après-midi, jusqu'à 120 km/h pour les caps les plus exposés. Partout ailleurs, il va falloir composer entre nuages, parfois porteurs d'averses, localement porteurs de grésil aussi, que ce soit des Hauts-de-France vers l'Alsace, accompagné donc d'un coup de tonnerre. Donc là, pour ces régions-là, ça sera un petit peu la totale, et également des averses en direction du sud-ouest, mais ça paraîtra quand même beaucoup plus calme que dans le nord-est. Partout ailleurs, ça sera légèrement plus sec, mais là aussi, on n'est pas à l'abri de quelques averses.
Merci Claire.
Merci Claire Delorme et à demain Agnès Bonfillon, demain RTL Midi, vous connaissez l'adresse. Bonjour, bonjour Lisa Marie.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Avons-nous reçu des messages?
Et oui, on va parler du salaire du PDG de Stellantis qui pourrait doubler et atteindre 36 millions d'euros. Un salaire qui choque Thierry qui a composé le 3210.
On nous parle de 36 millions, c'est une honte, c'est honteux. Je fais des locations de voitures pour des gens qui sont dans toute la France et qui pleurent du sang à cause des voitures de chez Stellantis. Voilà, je n'ai pas autre chose à rajouter, c'est honteux.
En revanche, pour Philippe, c'est tout à fait justifié et il explique pourquoi sur le répondeur des auditeurs.
Concernant le salaire de M. Tavares, ça ne me choque absolument pas, car ce sont les personnes qui achètent les véhicules Peugeot qui fabriquent son salaire. Donc, ce qui est tout à fait normal. Et en plus, c'est lui qui tire le char Stellantis pour garder les emplois. Et les Français feraient mieux de se battre contre les taxes que plutôt de regarder dans l'assiette du voisin. Merci.
Et comme Philippe et Thierry, on attend vos réactions. 36 millions d'euros de salaire. Est-ce que c'est choquant, justifié, indécent? Pour participer, le numéro, c'est le 3210. Vous pouvez également nous écrire sur l'application RTL. Nos standardistes, Margot, Cerise, Enzo et Victor, qui est de retour, attendent vos appels et vos messages.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
Cédric est avec nous. Bon, Cédric, je voudrais quand même vous faire écouter la réaction de Carlos Tavares lorsqu'on lui a parlé de son salaire exorbitant. Voilà ce qu'a dit le patron de Stellantis. Je le rappelle, Stellantis, c'est Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Jeep, Fiat, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et d'autres marques. Voilà ce qu'il dit.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Voilà ce que dit Carlos Tavares. Cédric, je vous écoute.
Alors, je n'avais pas écouté ce qu'avait dit M. Tavares. Et en revanche, j'allais dire quasiment la même chose. C'est-à-dire que 90% de sa rémunération, c'est dû aux bénéfices, enfin aux objectifs de la boîte. Les bénéfices de la boîte, c'est 4 milliards d'euros. Ça fait à peu près 0,9% son salaire, finalement. Mais, dans le fond, il n'a pas tort. Si on ne veut pas qu'il touche des sommes aussi astronomiques, il faudrait peut-être limiter tout ça. Bon, évidemment, il ne faudrait pas le limiter à 5 SMIC parce que personne ne voudrait faire ce poste. Mais moi, en tant que tel, ça ne me choque pas. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir...
Les bénéfices de la boîte, pendant que vous parlez, j'ai vérifié, Cédric, ce n'est pas 4 milliards, c'est... presque 19 milliards. Hein, 19
ouais, bah,
milliards.
Ouais, alors, voilà, 4 milliards, j'étais carrément très très loin. Peu importe, je me suis trompé dans l'info, mais c'est encore pire. Mais est-ce que tous les employés en bénéficient? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que finalement, s'il peut toucher cette rémunération, effectivement, c'est un dirigeant d'entreprise, c'est un grand patron. Il fait en sorte que ce navire aille dans le bon sens. Il fait en sorte que ça fasse des bénéfices. Il fait en sorte plein de choses pour l'emploi, etc. Mais l'employé, lui, qu'est-ce qu'il touche là-dedans? Parce que c'est grâce à ses employés qu'il arrive à toucher tout ça. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Si lui, il touche 36 millions, mais que chaque employé Stellantis, à la fin du mois, a une augmentation de 500 euros, ou à la fin de l'année, il y a une prime de 5, 6 000, ça me choque moins tout de suite.
Le montant des primes en France, Stellantis, c'est dans le monde entier, hein. Mais le montant des primes en France, qui combine intéressement et participation, a varié cette année, enfin l'année dernière, 2023, entre 4 100 euros minimum et 6 000 euros maximum. La prime annuelle. Alors, ce n'est pas une augmentation de salaire, mais c'est une prime annuelle.
D'accord.
C'est pas mal quand même.
C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, on parle sur 2023. Oui. Mais c'est pas mal. Sur 10 milliards d'euros, 19 milliards, je ne sais plus combien il m'a dit.
19.
Ou un salaire d'un PDG de 36 millions, est-ce que 6 000 euros sur un salaire, c'est beaucoup? Ouais. Franchement, moi c'est ça. Moi en tant que tel.
On touche au décalage entre le salaire classique et on peut avoir le même débat avec Kylian Mbappé. On peut parce que il est malin d'ailleurs le PDG Carlos Tavares parce que tout à l'heure il dit j'ai un contrat comme un pilote de Formule 1 ou un sportif de haut niveau. Je crois qu'il parle d'un joueur de football. Oui, il est malin parce qu'il prend l'exemple du sport et il sait très bien que dans le sport les gens aiment tellement Mbappé etc que ils sont prêts à accepter ces décalages. Mais la vraie question, c'est y a-t-il une indécence dans ces décalages, dans cet écart considérable? Restez avec nous, Cédric. Philippe, vous êtes là, Philippe?
Oui, bonjour.
Bonjour, Philippe. Écoutez, vous restez avec moi et je vous prendrai dans une poignée de secondes, vous aussi, à tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Ce salaire est complètement indécent. On est scandalisé quand on voit les milliers de suppressions d'emplois, scandalisé quand on voit les cadences inhumaines et on est scandalisé quand on voit les salaires des travailleurs. Vous avez aujourd'hui des salariés sur le site de Sochaux qui ne s'alimentent pas, qui ne sautent des repas parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est quand même complètement dingue. Plus l'entreprise gagne d'argent et plus l'écart se creuse entre les plus riches et ceux qui produisent les richesses.
Quelque 36,5 millions d'euros, c'est la somme totale que pourrait toucher le patron du quatrième groupe automobile mondial, Stellantis. Nous parlons de Carlos Tavares. Selon le rapport financier annuel de l'entreprise et les syndicats, vous venez de les entendre, sont vent debout. Vous venez d'entendre un syndicaliste qui s'appelle Anthony Rué, CGT, sur le site de Sochaux PSA. Philippe, vous comprenez, vous, ou pas?
Ah, moi, je comprends tout à fait le salaire de M. Tavares, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des répartitions dans l'entreprise PSA, j'appelle encore PSA puisque j'en ai fait partie, des répartitions d'intéressement qui vont crescendo, qui ne vont pas en s'abaissant, qui vont en montant. Et puis,
Vous dites que les salariés de PSA perçoivent d'année en année un pourcentage de plus en plus élevé de participation?
Bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai vécu. Et quand je suis parti en 2016 de PSA, ça montait déjà pas mal, la prime d'intéressement et participation. Bon, ce que je peux reprocher, c'est plutôt au niveau gouvernemental, parce que ces primes d'intéressement, elles sont soumises à l'impôt. Mmh. Si on veut vraiment donner du pouvoir d'achat, faudrait défiscaliser ces primes. Puis là, là les gens seraient heureux.
Ouais,
voilà.
Ouais, oui, tout à fait.
Ça, c'est le petit bémol. Mais bon, concernant le salaire, comme je dis, les gens, ils achètent des véhicules Peugeot, ils font le salaire de M. Tavares. Mmh. Donc, voilà, là, j'aimerais savoir le pourcentage des personnes qui achètent des véhicules PSA, des véhicules Stellantis, ceux qui sont contre le salaire de M. Tavares. On sera assez surpris sur un sondage pareil.
Dites, ça m'intéresse, Philippe, puisque... vous, vous avez travaillé dans le groupe, il y était dans les années où vous avez travaillé, Carlos Tavares, comment est-il ? Enfin, j'imagine que vous alliez pas boire un café tous les matins avec lui, mais quelle est sa réputation auprès du management, auprès des salariés ?
Ah bah auprès des salariés, ça passe toujours mal, hein, directeur, on le sait. La France est née là-dedans, elle est née dans les revendications depuis 1936. Auprès les patrons, c'est des salauds, mais sauf que c'est eux qui tirent le char. Faut pas oublier, c'est des dirigeants qui tirent les chars pour garder le maximum d'emplois. C'est la conjoncture, les conjonctures politiques qui font des fois la perte d'emplois. Bon, bref, mais il était le bienvenu. Hein. On savait, parce que quand il est venu sur le groupe PSA, on savait ses antécédents chez Renault et il était très très bien noté chez Renault. Donc c'était une bouffée d'oxygène pour nous.
Donc vous considérez que c'est un peu comme, je sais pas, dans un sport de haut niveau, il faut des joueurs de très haut niveau, et pour avoir des joueurs de très haut niveau, il faut sortir le portefeuille et les payer très cher. Vous pensez ça, des grands patrons de grands groupes ?
Oh, je mélange pas la chèvre et le chou, moi. Moi, je suis pour un salaire correct pour tous. Et les patrons d'une industrie comme Stellantis, qui emploie des milliers de personnes, doivent être rémunérés à juste valeur. Sauf que dans le sport, on rémunère un peu trop facilement, on achète un peu trop facilement des joueurs ou des clubs. Mais bon, c'est éphémère dans le sport. Tandis que là, il faut que ça dure.
Merci, Philippe. Je vais prendre Alain. Merci à vous, Philippe. Hein. Mon cher Merci. Alain, bonjour.
Bonjour, Eric.
Que faites-vous dans la vie, Alain ?
Eh bien, moi, j'ai une boucherie à Morteau.
Très bien. Vous êtes votre propre patron, vous êtes un petit Carlos Tavares, mais vous ne percevez pas, vous, 36 millions d'euros.
Non, je ne suis pas du tout. Carlos Tavares n'est pas un patron.
Oui.
Moi, on va remettre l'église au milieu du village. Moi, je suis un microscopique patron, puisque moi, quand j'ai voulu me mettre à mon compte, moi, comme mes autres collègues, les plombiers, les boulangers, les patrons de restaurants et tout ça, moi, quand j'ai voulu me mettre à mon compte, il a fallu que je sorte de l'argent personnel pour me mettre à mon compte, pour devenir patron. Il a fallu que j'apporte de l'argent. Après, j'ai fait des crédits. Et si un jour ma boucherie coule, je perds de l'argent personnel. Monsieur Tavares, pour moi... Après, on va peut-être me dire que je chipote ou peut-être qu'on ne va pas être d'accord avec moi. Pour moi, Monsieur Tavares, il a un poste d'ouvrier le mieux qualifié de chez Stellantis, mais il n'est pas patron parce que Monsieur Tavares, pour être à sa place là où il est actuellement, il n'a pas sorti un euro de sa poche.
Oui, non, mais vous avez entièrement raison. C'est un dirigeant d'entreprise, c'est un chef d'entreprise, mais ce n'est pas un entrepreneur. Voilà, enfin, ce n'est pas un patron. Il n'a pas créé Stellantis.
Il n'a rien sorti de sa poche.
On l'a mis là, il venait de Renault. Oui, vous avez raison sur ce registre.
Exactement. Après, sur ce qui est de sa rémunération... Moi, à la rigueur, je m'en soucie pas. Le seul truc que je trouve indécent, c'est qu'on en parle quand on sait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger jusqu'à la fin du mois.
Oui.
Et parmi ces gens-là, il y a de ces ouvriers à lui qui ne peuvent pas partir en vacances, qui passent leurs vacances à Montbéliard, là-bas, où il y a les usines Peugeot, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de partir en vacances, parce qu'ils sont payés, moi j'en connais, hein, qu'ils sont payés à coups de lance-pierre pour visser le même écrou toute leur carrière.
Attendez Alain, restez avec nous, je trouve que ce que vous dites est assez original et intéressant. Je voudrais, on me signale au standard que vient d'arriver au 3210 Bruno, me semble-t-il, qui travaille chez Stellantis. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Vous êtes sur quel site, vous ?
Moi, je suis sur le site de Charleville-Mézières.
Et vous êtes sur quelle chaîne, sur quelle voiture?
On fabrique des culasses.
D'accord.
Des culasses de moteur.
Des culasses de moteur, d'accord. Pour,
ouais, une fonderie.
C'est une fonderie, oui. Donc ça, c'est pour des voitures, pourquoi? Pour des Peugeot, pour des... Oui.
Pour toutes les marques qui consomment des véhicules, tous les véhicules qui consomment du gasoil, du diesel et de l'essence, on fabrique trois sortes de moteurs.
Très bien, vous êtes donc ouvrier chez Stellantis et nous parlons bien de Stellantis et du PDG de Stellantis, Carlos Tavares, dont le salaire pourrait doubler et atteindre 36 millions d'euros cette année. Votre réaction de salarié, vous, Bruno?
Alors, ma réaction, c'est que ça ne me choque pas du tout parce que c'est normal, il donne de bons résultats au groupe et on a une bonne prime, j'estime qu'on n'a pas à se plaindre de notre salaire et de la prime de participation aux bénéfices. Par contre, j'aimerais bien qu'ils augmentent un petit peu le budget de maintenance sur le site de Charleville-Mézières parce qu'on travaille avec des machines dans un état lamentable.
D'accord. Vous allez m'expliquer ça et je vous trouve très compréhensif avec Carlos Tavares. Est-ce que ce sont les temps qui ont changé? Il y a quelques années, on aurait dit quoi? C'est pas possible, 36 millions d'euros. J'aimerais comprendre. Vous me direz d'ailleurs, Bruno, si chez vous, par exemple, les organisations syndicales ont le même discours que vous ou si au contraire, elles disent c'est pas possible, c'est inacceptable. Parce que je suis pas habitué à ce genre de réaction quand même. Il est 13h18, vous écoutez, les auditeurs ont la parole. À tout de suite.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Je vous appelle simplement pour dire que non, le salaire de M. Tavares ne me choque pas du tout. Il devrait même être nettement plus élevé. Parce qu'un homme qui a redressé un empire industriel qui allait beaucoup, beaucoup moins bien qu'il n'allait il y a 30 ou 40 ans, qui donne directement du travail, ou qui fournit, pas donné, mais fournit directement du travail à 250 000 personnes dans le monde, c'est plus que la population de Strasbourg, par exemple, pour faire une comparaison. Non, je ne trouve pas du tout que c'est indécent. Et ce qui me choque, par contre, c'est que quelqu'un qui court, certes, beaucoup mieux après un ballon que la moyenne, beaucoup plus vite qu'un autre, gagne le double.
Voilà, c'est André qui vient de nous laisser ce message. On était avec Bruno il y a un instant, qui est ouvrier chez Stellantis. Je rappelle que Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, pourrait voir son salaire doubler et atteindre 36 millions d'euros. 90% quand même de son revenu sont des primes. C'est une part variable plutôt. Bruno, vous avez été ouvrier chez Stellantis. Vous n'êtes pas choqué? Combien est-ce que vous gagniez à l'époque? Alors c'était il y a 6-7 ans déjà, mais de primes à la fin les dernières années.
Je peux pas vous dire exactement, mais on a toujours eu des bonnes primes de participation aux bénéfices. Et
l'année dernière, c'est entre 4100 et 6000 euros par an de primes.
C'est 4100, mais brut. Ouais. On touche net 3700 euros à peu près.
Vous êtes
déjà pas trop mal.
Vous êtes toujours salarié de chez Stellantis, pardon, j'ai dit que vous aviez quitté le groupe. Vous êtes toujours salarié chez Stellantis.
Oui, ça fait 30 ans.
Ça fait 30 ans. Bougez pas, Bruno. Je vais prendre Isabelle qui est avec nous. Bonjour, Isabelle.
Bonjour.
Est-ce que ça vous semble choquant? J'en profite pour vous dire que le PDG de Ford, Jim Farley, est à 24,4 millions d'euros. Et celui de Volkswagen, Olivier Blum, est lui à 8,7 millions d'euros par an. Encore une fois, ce sont des rémunérations qu'on embrasse de façon globale. Il y a des salaires, il y a à l'intérieur de cela des participations, il y a beaucoup de choses qui sont très très différentes. Isabelle, est-ce que c'est indécent pour vous?
Non, pas du tout. Et ce qu'Isabelle ne comprend pas, c'est que c'est la jalousie des Français. Ce monsieur, il a fait des études, il est arrivé au niveau qu'il a maintenant, il a effectivement redressé son entreprise, ses entreprises. Qu'est-ce qu'on va lui chercher et pourquoi se mêle-t-on de son salaire? Je ne vois pas l'intérêt. Je considère, il a parlé des footballeurs, je suis entièrement d'accord avec lui. En plus, les footballeurs maintenant manquent de respect et n'ont plus les mêmes valeurs qu'avant. Il parle des pilotes. Les pilotes, eux, ils risquent leur vie. Hein. Bon, c'est un choix, mais ils risquent leur vie. Lui, ce monsieur, il a une responsabilité mondiale. Et il gagne, effectivement, il a signé un contrat avec son entreprise. Et ben voilà. Moi, j'ai eu des primes, je suis nouvelle retraitée. J'ai eu des primes, j'étais très contente de les avoir. Maintenant, je ne les ai plus. Je travaillais dans une boîte sociale. Et au bout de 42 ans, j'ai, par la CNAV, 1081 euros de revenus.
Le moins qu'on puisse dire, Isabelle, c'est que vous dites, vous commencez votre propos en disant les Français sont jaloux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas jalouse. Parce que vous me dites, j'ai 1080 de revenus et oui. Tavares a 36 millions. Et c'est normal, me dites-vous.
Et je trouve ça normal. Moi, j'ai pas eu mon bac, j'ai été malade, j'ai pas eu fait les études qu'il a faites, j'ai pas les responsabilités qu'il a.
Et surtout au-delà des études, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des études. Moi, j'ai fait des études, mais je serais incapable, il serait totalement incapable de faire prospérer ce groupe de 250 000 salariés
et de lui sortir
la tête de l'eau et d'en faire un groupe bénéficiaire qui gagne 19 milliards de bénéfices par an. Ça, c'est un truc tout à fait extraordinaire. Réécoutez-le, parce que je vois sur les réseaux sociaux des gens qui me disent qu'ils n'ont pas entendu Carlos Tavares. Alors justement,
mais moi, je l'ai bien écouté.
Il est très bien. On se le réécoute pour ceux qui ne l'ont pas entendu tout à l'heure, il y a 20 minutes. Carlos Tavares, PDG de Stellantis. Et je le rappelle, Stellantis, c'est Peugeot, c'est Citroën, c'est Fiat, c'est Opel, c'est Lancia, c'est Alfa Romeo, c'est beaucoup de choses, hein, c'est Maserati. Écoutez-le.
D'abord, c'est une dimension contractuelle entre l'entreprise et moi, comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats d'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai.
Beaucoup d'appels au 3210. Je prends Jean-Paul, il va entrer dans la danse. Mon cher Jean-Paul, bonjour.
Oui, bonjour Eric.
Ça vous agace ou vous comprenez ?
Je ne comprends pas du tout. Je suis même scandalisé. Je trouve ça tellement ahurissant que quelqu'un puisse gagner autant d'argent par mois. La grille des salaires aujourd'hui, elle est quoi ? De 1 à 500 ? C'est de quel droit quelqu'un peut bénéficier d'une telle largesse alors que l'entreprise, c'est bien sûr un patron, c'est bien sûr des cadres. Et c'est aussi une population qui travaille et qui produit de la richesse. Je pense qu'il n'est pas le seul à travailler dans cette entreprise. Partant de là, je trouve quand même que...
Non, il y a 250 000 salariés.
Gagner autant d'argent aujourd'hui, alors que les salaires augmentent peu, mais que les écarts entre les plus riches et les plus pauvres explosent, et je trouve quelque chose d'aberrant dans notre société. Mais si, effectivement, même des salariés arrivent à valider ces écarts de salaire, je crois que on va vers un changement de société. On y est sans doute déjà, mais je ne partage pas du tout cette vision de la société, ni cet horizon qui nous est promis.
Qui veut répondre à Jean-Paul, Bruno, Alain, qui veut répondre à Isabelle, qui souhaite répondre à Jean-Paul, qui dit non, vous vous trompez, ça n'est pas acceptable. Allô, Isabelle, Bruno.
Je vois pas pourquoi c'est pas acceptable avec les responsabilités qu'il a et les résultats qu'il a.
Mais c'est pas suffisant comme réponse. Les responsabilités, c'en est une chose. Est-ce que ça justifie un tel écart de salaire ?
Mais monsieur, l'écart de quoi ?
Je partage effectivement l'opinion aussi concernant les sportifs qui n'ont pas, pour qui c'est scandaleux, Mbappé, les coureurs automobiles, etc. Quelqu'un qui pilote un avion a aussi beaucoup de responsabilités. Je ne suis pas sûr qu'il ait un salaire à cette hauteur.
Isabelle.
Bien sûr, il n'a pas un salaire à cette hauteur, mais il n'a pas non plus la même responsabilité.
Non, quand même, il a la responsabilité de conduire, et de façon dangereuse, des passagers, 200 ou 300 personnes à chaque fois.
Oui, le pilote d'avion, d'accord.
Bah oui, mais des tas d'exemples comme ça, on pourra en prendre. Mais
alors, le pilote d'avion, on est d'accord. Il a un bon salaire, je ne le connais pas. Il a des responsabilités comme un chauffeur de bus, comme un chauffeur de car qui transporte des âmes. Oui, chacun des responsabilités, mais
bien
chacun
sûr.
Signe le contrat.
Oui.
chacun est responsable de sa vie tant qu'il peut l'être et du travail qu'il fournit.
Oui,
et
cela dit, Isabelle, ça dépasse. Dans ce cas, non mais tout le monde est responsable. Dans ce cas, un chauffeur de bus, il a la responsabilité de la vie des gens. Un chauffeur de transport scolaire gagnerait des dizaines de millions. Si on va, ça n'est pas que la notion de la responsabilité de vie humaine. Il y a aussi le fait qu'il y a 250 000 personnes qui gagnent leur vie avec lui et qui la gagnent même plutôt mieux. Restez avec nous dans un instant, d'autres réactions 3210.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Chérie.
Éric Brunet.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Oui, voilà, Thierry, gilet jaune, ingénieur du 52. Que les patrons français gagnent du pognon, je suis d'accord. Que Tavares veuille gagner 50 millions par an parce que c'est lentille, ça fait du bon chiffre d'affaires, je suis d'accord. Mais pour 1 million gagné par le PDG, il faudrait redistribuer 100 millions aux salariés français directement, avec les mêmes critères de productivité que lui a.
Voilà une idée que nous soumet Thierry qui vient de nous laisser ce message. Est-ce qu'on a des messages écrits, Victor ?
Bonjour Eric, bonjour à tous. On a beaucoup de messages écrits sur notre application RTL. On commence avec Thierry à Auray dans le Morbihan. Un salaire à la hauteur d'un dirigeant de grande entreprise qui fait vivre des milliers de salariés. Jean en Haute-Savoie. Le salaire de Monsieur Tavares n'est pas gênant comparé à un footballeur. Par exemple, ses responsabilités sont énormes et son bilan est plus que parfait. Et puis Eric, on en parle tout à l'heure, une ancienne chapelle converti en salle d'escalade dans le 8e arrondissement de Paris. Ce n'est pas la première fois qu'un édifice religieux désacralisé est réhabilité pour de nouvelles activités. Alors qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut réhabiliter des lieux de culte transformés ? On en parle au 3210. Enzo, Margot et Cerise vous attendent.
Très bien, le standard est là. Ils sont tous à fond, au taquet. Jean-Pierre a fait le 3210 sur Stellantis et Carlos Tavares. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Eric.
Bon, et trouvez-vous normal qu'un grand patron de grande boîte qui fait performer l'entreprise gagne des sommes aussi importantes ?
Bah écoutez Eric, déjà, c'est pas uniquement le PDG qui fait faire des bénéfices astronomiques. Il y a aussi les salariés, il faudrait peut-être penser à eux. Mmh. Par contre, ce que je voudrais dire, moi j'ai travaillé 42 ans chez Peugeot à Sochaux. Donc, j'ai bien connu l'entreprise. Je voudrais faire un premier point concernant les primes de participation. Ce que les salariés veulent, c'est des salaires, c'est pas des primes. Hein. Faut savoir que nos retraites sont calculées sur les salaires et non sur les primes. Et je voudrais aussi rappeler qu'en 1989, le PDG de l'époque, qui s'appelait M. Calvet, s'est augmenté de 30%. Et cela avait généré une grève qui avait duré 6 semaines sur les sites de Sochaux, Mulhouse et Poissy.
Quand Calvez s'était augmenté de 30%, il y avait une grève de 6 semaines.
De 6 semaines. Je m'en souviens pas. Les anciens doivent s'en rappeler. Hein, 6 semaines.
1989.
Avec la forge, 1989 avec l'occupation de la forge à Mulhouse. Ah. Hein, et donc là, 50%, c'est... Et en plus, dans le pays de Montbéliard, ne parlez pas aux gens de Tavares. Hein. Mmh. Il nous a liquidé notre club de football, le FC Sochaux Montbéliard.
Ah oui. Hein.
Alors ici, il a pas la cote.
Hein. Il a pas la cote. Attendez, Jean-Pierre, restez avec nous parce que justement, je voudrais vous mettre en face de Bruno, qui lui est ouvrier chez Stellantis. Vous êtes où, Bruno, déjà?
Sur Charleville-Mézières.
Sur Charleville-Mézières. C'est un ancien là qui vous parle, Jean-Pierre. Il est plus dans la maison, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? C'est pas. D'abord, il dit c'est pas des primes qu'on veut, c'est du salaire.
Oui, c'est vrai parce que l'an dernier, les chefs proposaient des augmentations individuelles de 21 euros. Mmh. Et moi, j'ai dit à mon chef, si c'est pour me donner 21 euros, tu les gardes parce que j'en veux pas. Mmh.
D'accord. Mais vous sembliez quand même tout à l'heure assez content. Vous m'avez dit, ces primes entre 4 000 et 6 000 euros bruts, c'est pas mal.
On est
pas mal logé.
Mais moi, je ne me plains pas du tout de mon salaire et je ne me plains pas de la prime de participation.
J'ai le droit de vous demander combien vous gagnez en brut mensuel, Bruno ?
2 700 euros.
D'accord. Sur 12 mois, sur 13 mois
2700 net, net, net.
Hein. Net, net, 2700 oui, net. Oui. Ah oui, c'est pas la même.
Oui, oui. Ouais,
d'accord.
Oui, oui. Je travaille en équipe de week-end. Et moi, le problème, comme je l'ai dit au départ, c'est la vétusté des machines. Alors, ouais. C'est bien qu'ils augmentent. Moi, comme je vous ai dit, ça ne me choque pas. Le problème,
c'est l'outil de travail. Faudrait... C'est l'outil de travail qui est vétuste.
Voilà,
bon, Jean-Pierre, vous entendez ce que dit Bruno? Vous entendez
oui,
ce que dit
sûr.
Bruno?
Ah ben, pour parler de la vétusté de l'outil de travail, moi, je vais vous parler du site de Sochaux. Lorsque je suis revenu de l'armée en 76, on était 43 000 salariés. Et aujourd'hui, ils sont moins de 5 000. Vous voyez la différence? Ouais. Ils ont tout robotisé. Alors, bien sûr, il y a des métiers qui ont disparu, des métiers pénibles, de fondeurs, c'était des métiers difficiles. Mais bon, moi, je dis, c'est normal que l'entreprise qui fait des bénéfices investisse dans l'entreprise, quoi, ouais. Heureusement encore, parce que sinon, on va. Mais bon, il faut aussi penser aux salariés, aux salariés, alors au niveau salarial, au niveau social aussi, c'est important.
Bien, merci Jean-Pierre, merci Bruno, on touche à quelque chose qui est important, c'est la mémoire ouvrière. La mémoire ouvrière, vous imaginez Jean-Pierre qui me dit, à l'époque du patron de PSA, de Peugeot, Calvez, on avait fait grève 6 semaines en 1989, car il s'était augmenté, le grand patron de Peugeot, de 30% à l'époque, vous voyez. Bon, là, on n'était même pas sur les niveaux de rémunération actuels, mesdames, messieurs. Le monde change. Le monde change et la mémoire ouvrière est là, heureusement, pour nous rappeler. Il faudrait des musées de la mémoire ouvrière, de la mémoire industrielle de ce pays. C'était bien d'entendre, en tout cas, ces gens qui ont travaillé en usine, qui travaillent encore dans les sites de production comme Bruno. Et je vous ai trouvé, globalement, assez compréhensif avec ce grand patron qui gagne un salaire très, très important. Mais vous dites, après tout, si ça sert les intérêts du groupe et des salariés, pourquoi pas ? Voilà un discours intéressant. Bon, dans un instant, on parle de quoi, les amis ? On va parler de la... comment ? Les sanctions pénales, c'est ça. Parce qu'on a plusieurs thèmes à évoquer. On a parlé tout à l'heure de la seconde vie des lieux de culte. Mais tout de suite, on va parler de la délinquance des mineurs avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui souhaite restaurer la responsabilité des parents des mineurs délinquants. En gros, les taper un peu plus au portefeuille.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Éric Brunet sur RTL.
13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, vous restez chez vous. On a absolument besoin de recouvrer le calme et redire aux parents qu'ils tiennent leurs gosses. Parce que ça n'est pas à l'état d'élever les enfants.
Voilà, c'est le ministre de la Justice que vous venez d'entendre. Éric Dupond-Moretti qui veut... responsabilité davantage les parents d'enfants délinquants. Cindy Hubert est avec nous, journaliste police-justice d'RTL. Bonjour Cindy.
Et bonjour à nouveau.
Merci d'être là. Bon, alors, que nous dit aujourd'hui Éric Dupond-Moretti? Que veut-il faire?
Alors, l'idée, c'est de mettre la pression sur les parents défaillants en renforçant la peine prévue, qui passerait à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Les parents pourraient être également condamnés à des travaux d'intérêt général, à donner de l'argent à une association d'aide à l'enfance. Le projet de loi parle de contribution.
Attendez, donc, l'enfant mineur fait une bêtise, et donc c'est le parent majeur, bien évidemment, qui ferait un travaux d'intérêt général, genre... je sais pas, nettoyer le bas de l'immeuble, quoi.
Balayer la rue, absolument. Alors ça, c'est déjà possible, mais c'est pas appliqué. Cette idée de contribution citoyenne, ça serait donner de l'argent à une association. Par exemple, une association d'aide à l'enfance, mais pour ça, c'est un organisme privé, donc ça pose beaucoup de questions juridiques. Et puis, la chancellerie, elle veut aussi encourager les stages de responsabilité parentale. On est sur une sorte de formation pour leur rappeler leurs devoirs et leurs obligations de père ou de mère. Peut-être que vous connaissez des stages qui existent déjà sur la sécurité routière pour les chauffards ou des stages sur les violences conjugales. Ici, ces stages pourraient être utilisés, par exemple, pour sanctionner les parents qui sèchent les convocations chez le juge des enfants. Mais là encore, ça impliquerait de créer une infraction spécifique pour ces absences.
Très bien, Cindy, vous pouvez rester quelques minutes avec nous ?
Bien sûr.
Merci. Marie a fait le 3210, ma chère Marie. Bonjour.
Bonjour Eric.
Qui est Marie? Que faites-vous dans la vie?
Alors, je suis ancienne directrice des services pénitentiaires.
Ah, ben
notamment oui. Dans un centre pénitentiaire où il y avait effectivement des jeunes détenus.
Je suis un peu embêté, Marie, je l'ai dit tout à l'heure à midi sur RTL, j'ai oui. l'impression d'avoir fait cette émission 55 fois. C'est un jour sans fin. Ça fait les oppositions réclament cela depuis des années. Il faut frapper les parents des délinquants au portefeuille, il faut les priver d'aide sociale, il faut ceci, il faut cela, et à chaque fois il y a quelqu'un qui dit « Mais attends, attention, cette mesure existe déjà, mais elle n'est pas utilisée. » Et à chaque fois, c'est le même débat. J'ai l'impression que cette émission est inutile. J'ai envie de quitter mon studio, Marie, de partir, de rentrer chez moi, parce qu'on répète 100 fois les mêmes choses.
Oui et non. Enfin, je pense que je viens de réécouter effectivement avec vous l'intervention de Monsieur Dupond-Moretti. Je pense qu'il a parfaitement raison. Je pense que ce n'est pas le rôle de l'État d'éduquer les enfants à la place des parents, ni le rôle de la société. Voilà, les parents défaillants doivent être mis face à leurs contradictions et à leurs carences. Et là, je suis entièrement d'accord. Ça mérite une sanction. Moi, je trouve que la sanction proposée par Monsieur Dupond-Moretti, elle n'est pas excessive parce que moi, j'ai envie de dire que quand un parent, on constate qu'il est défaillant, eh bien, on doit confier l'autorité parentale à un tiers. Moi, j'irai même un petit peu plus loin, parce que je ne suis pas convaincue que la sanction financière, elle soit exécutée, parce que souvent, les parents n'ont pas les moyens économiques suffisants. La sanction pénale, il faudrait déjà qu'ils comprennent le sens de la sanction. Parce qu'en fait, on oublie tout le temps le sens de la loi. Quel est le sens de la loi? La loi, c'est pas uniquement de punir. La loi, c'est de prévenir, d'empêcher, de protéger, et voire d'éduquer. Donc, il me semble que la proposition de M. Dupond-Moretti va dans le sens de la loi. Contrairement à ce qu'on entend souvent, hein, mais il faut protéger les jeunes, et ainsi de suite. Les jeunes ne sont pas plus délinquants que les autres catégories de profession. Voilà.
Marie, est-ce que du coup, des stages...
Attendez, Cindy, oui.
Est-ce que des stages de responsabilité parentale, ce serait une bonne idée pour vous?
Oui, bien sûr, oui, je pense. Je pense que ce sont des parents qui n'ont pas ou mal appris comment devenir parents. Donc je pense un stage de sensibilité, ça peut leur permettre justement d'apprendre les rudiments du rôle de parent.
Marie, très bien, attendez, je vous mets sur pause. Ce que vous dites est passionnant. Cindy, pour faire avancer le débat, est-ce que si je dis que des dispositifs de cette nature ont déjà été mis en place, qu'ils existent légalement, mais qu'ils ne sont pas utilisés, est-ce que si je dis cela, j'ai bon?
Alors, sur les stages, par exemple, de responsabilité parentale, ça existe déjà. Et pour le coup, c'est encouragé par les magistrats. Après, il faut que
ça suive. Mais enfin, vous avez déjà croisé des gens dans votre travail de journaliste police-justice qui ont fait des stages de responsabilité parentale parce que les enfants étaient délinquants?
Alors, ça reste très rare parce qu'il faut les mettre en place dans les tribunaux. Il y a encore des tribunaux où ça n'existe pas. Parce que ça demande des moyens, parce que ça demande des associations qui prennent en charge ces stages. Et pour le coup, ça, c'est soutenu.
Alors quand il y a une bonne idée qui est mise en place et qui n'est pas appliquée, ça veut dire que c'est pas une bonne idée, Cindy. Ça veut dire que soit c'est coûteux, c'est comme ces fantasmes de remettre en place le service militaire, etc. Il faudrait trouver des casernes pour 800 000 jeunes chaque année. On sait très bien que logistiquement, c'est pas possible. Donc est-ce que frapper les parents d'enfants délinquants, est-ce que c'est pas une fausse bonne idée, inapplicable, Cindy? Elle est là, la question.
Alors ça va dépendre des dispositifs, par exemple on parlait de donner de l'argent à une association, ça va poser des problèmes juridiques. Alors sur les condamnés à des travaux d'intérêt général, là c'est pareil, ça existe déjà, c'est une peine qui peut être une peine alternative.
Mais ça n'est pas tellement
utilisé. Ça n'est pas utilisé, encore une fois on en revient à cette infraction visée, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir prouver, ça veut dire quoi être un parent défaillant, ça veut dire quoi mettre en danger son enfant, tout ça c'est des questions à laquelle on ne répond pas et surtout il existe plein d'autres dispositifs dont dispose le juge pour accompagner les parents à ce qu'ils deviennent de meilleurs parents.
Dans un instant, avec vous, Marie, pourquoi est-ce que ces dispositifs qui existent déjà ne sont pas utilisés, Marie? Et dans un instant, Grégory également qui nous rejoint. Grégory, vous êtes là?
Oui, je suis là. Bonjour, Eric.
Bonjour, Grégory. À tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Eh bien, moi, je suis pour sanctionner les parents de délinquants mineurs. Jusqu'à 18 ans, les parents sont responsables de leurs enfants et ils doivent payer. Je comprends qu'il y a des parents qui sont surpassés, des femmes célibataires, des mamans célibataires, etc. Mais les autres n'ont pas à payer les pots cassés pour ce genre de situation. Et c'est pas une raison, disons. Donc, voilà. Bonne journée, au revoir.
Message que vient de nous laisser Catherine. Qu'en pensez-vous, mon cher Grégory ? Vous avez fait le 32-10.
Oui. Oui, bonjour à tous, bonjour Eric. Alors, écoutez, moi, en vrai, je ne suis pas un soutien de Eric Dupond-Moretti, du tout même. Mais par contre, là, vraiment, j'approuve ce qu'il dit. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est très bien. Il faut taper au portefeuille des parents. Il faut taper au budget parce que la délinquance, les gens dans les quartiers, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, il y en a marre. Donc il faut vraiment faire quelque chose de sévère, mais par contre il faut appliquer. Je veux dire, c'est pas juste des mots. J'espère qu'il va. Bon voilà, il a prononcé de très bonnes paroles, mais il faut le faire vraiment. Mmh. Il faut vraiment appliquer. Il faut être ferme parce qu'il y en a marre. On n'en peut plus de la délinquance.
Mais pourquoi ça n'est pas appliqué ? C'est quoi ? C'est parce que c'est inapplicable ? Parce que l'État profond fait de la résistance ? Parce que les magistrats font de la résistance ? Pourquoi ces dispositifs qui existent déjà sont si peu appliqués ? Finalement. Je ne sais pas, Cindy Hubert, vous avez une idée vous ?
Alors, par exemple, on parlait de taper au portefeuille, en tout cas, supprimer ce vieux serpent de mer, supprimer les allocations familiales, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui revient régulièrement dans le débat, mais ça n'existe pas.
Oui, mais ça peut. La loi. Le prévoit, non ?
Ça
n'existe pas. Ça n'existe
pas dans des... En revanche, ce qui est possible, si je puis me permettre, c'est... Donc, on parlait de responsabilité pénale jusque-là. Par contre, ce qui existe déjà, c'est la responsabilité civile. Mon enfant casse quelque chose, mon enfant a un accident de voiture, mon enfant vole quelque chose, à ce moment-là, c'est les parents qui payent. Et là, pour le coup, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce projet de loi. Pour le moment, c'est le parent chez qui vivait l'enfant qui payait. On va pas se mentir, c'est très souvent les mères. Mmh. Ça veut dire que, pour l'instant, un père qui était absent ne participait pas à réparer. Mmh. Et aujourd'hui, il va peut-être être possible de faire payer les deux parents solidairement.
D'accord, donc très très important. Marie, je voudrais vous entendre. Marie, ancienne directrice de centre pénitentiaire, vous avez fait le 32-10. C'est super énervant que déjà le peu de choses qui a été fait, voté sur la responsabilité des parents d'enfants mineurs délinquants soit pas mis en place, quoi. J'ai l'impression que on se paye de mots, on fait des émissions, on est tous d'accord, c'est bien, il faut engager la responsabilité de ces enfants délinquants, formidable, très bien, un peu d'autorité, chouette, on ferme nos micros, on rentre chez nous et rien ne change.
Alors peut-être comme disait Cindy Hubert, alors sur le plan civil, ce qu'elle vient d'expliquer, je suis tout à fait d'accord avec elle. Sur l'aspect pénal, je suis également d'accord. Il faut peut-être adapter le code pénal pour donner des outils plus précis aux magistrats. Et puis en même temps, qui dit travaux d'intérêt généraux dit structure d'accueil. Il faut aussi trouver des structures d'accueil pour permettre à ses parents d'effectuer leur peine. Peut-être qu'il y a des décisions de justice qui sont rendues et dans les parents sont dans l'incapacité d'exécuter la peine parce qu'il n'y a pas de structure d'accueil.
Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, dans le volet pénal de ce projet de loi est par exemple prévu que les mineurs délinquants, s'ils sont placés sous contrôle judiciaire, puissent dormir dans un établissement de la protection judiciaire. Un foyer, en gros c'est un foyer. Ça serait un peu comme un accueil de nuit, on les obligerait à dormir la nuit quelque part. Mais là encore, on en revient aux moyens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans les foyers pour mineurs délinquants. Donc là, les magistrats sont en train de se demander comment on va faire. C'est-à-dire, on a déjà plus de place pour les mineurs délinquants. Comment va-t-on faire si on rajoute en plus ces personnes qui sont sous contrôle judiciaire ?
Corinne a fait le... Oui, Marie, dans un instant, restez. Hein. Corinne a fait le 32-10 également. Bonjour Corinne.
Bonjour.
Où êtes-vous ?
En Sarthe.
Dans le département de la Sarthe. Très bien, vous avez le micro, on vous écoute.
Oui, moi je ne sais pas s'il faut sanctionner les parents, mais en tout cas je pense qu'il faut aussi impliquer les enfants. Je vais prendre mon exemple. Ma fille, lorsqu'elle avait 17 ans, a volé dans un magasin des vêtements. La responsable du magasin m'a appelée. Je pense qu'elle souhaitait que je paye les vêtements et qu'on reparte. Sauf que j'ai refusé et elle m'a dit « mais on fait quoi ?» Et moi je lui ai dit « ben il faut appeler la police ». parce que ma fille, elle a pris la responsabilité de faire ça. Donc, c'est à elle aussi de voir avec la police. Et je suis partie, je suis retournée au travail, je l'ai laissée. La police, après, m'a appelée en me demandant de venir la chercher, ce que j'ai refusé. En fait, moi, je voulais qu'il y ait un impact vis-à-vis de ma fille et qu'elle comprenne que le geste qu'elle avait fait n'était pas anodin.
Elle avait quel âge ?
Elle avait 17 ans.
Mmh. Et alors ?
Et je l'ai laissé poireauter 3 heures à la police. Je me suis fait houspiller par la police hein, parce que on m'a dit que comme elle était mineure, je devais venir la rechercher. Mmh. Alors, c'était pas du tout que je voulais me dédouaner hein, de mon rôle de parent.
Vous vous êtes dit, je vais la laisser macérer 2-3 heures au commissariat de police. Elle va voir ce que c'est que la vraie vie. C'était ça, la démarche.
Oui, c'est ça. La démarche, c'était de lui faire comprendre que ses actes avaient un impact.
Ouais.
Et que c'est pas parce qu'on était mineur qu'on pouvait tout faire. Et que au final, il se passait rien parce que papa et maman allaient payer.
Mmh.
Alors, ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas eu de suite. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de passage au tribunal. Et ça, je trouve que c'est dommage, parce que, voilà, elle est où la leçon, en fait ?
Donc, il n'y a pas eu de suite, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas payé les vêtements, elle s'est fait gronder, et c'est tout, il n'y a pas eu de dépôt de plainte.
Eh bien, je ne sais pas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était juste avant le Covid, et je pense que, voilà, il y a eu des choses qui se sont perdues. Mais moi, j'aurais souhaité, en fait.
Qu'il y ait une suite. Oui. Restez avec nous, Corinne. C'est très intéressant. Ben, il n'y a pas eu de suite. Voilà. Corinne, elle a voulu qu'il y ait une sanction contre sa fille. Il n'y a pas eu de sanction. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Nous parlons donc d'Éric Dupond-Moretti qui souhaite restaurer la responsabilité des parents d'enfants délinquants. On continue à en parler juste après 14 heures, mais l'agent Alphonse Richard vient d'entrer dans le studio. On va parler du programme de l'heure du crime tout à l'heure à 14h30. Bonjour, Jean-Alphonse.
Bonjour, mon cher Éric Brunet. Alors aujourd'hui, je vous emmène au Canada, à Québec, avec une histoire parfaitement incroyable. Été 1949, un crash d'avion, c'est une ligne intérieure, c'est un DC-3 à l'époque qui s'écrase, 23 morts contre une montagne, aucun survivant, accident mystérieux jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il y avait une bombe à bord. C'est donc un attentat, les policiers vont remonter cette piste, celle du colis piégé, et là, ils vont révéler un extraordinaire scénario. C'est un bijoutier de Québec, il s'appelle Albert Gay, qui aurait déposé cette bombe à bord parce qu'il voulait tuer sa femme. Et du coup, il a tué tout le monde, évidemment. Pourquoi et comment s'est-il retrouvé dans cette histoire ? Comment a-t-il surtout été démasqué ? Eh bien, il y a une histoire de minutes dans cet épisode, c'est-à-dire qu'il y a 5 minutes de retard de l'avion et 5 minutes fatales qui expliquent tout. Et je vous dis tout dans l'heure du crime.
Quelle histoire incroyable pour tuer sa femme.
Très étonnant. Je la connaissais pas.
Il a désingué l'avion.
Ah oui, bah il a pas fait dans le détail.
Oui.
Voilà.
Quelle histoire. 14h30.
À 14h30, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et nous, on se retrouve pour la suite des auditeurs à la parole.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL, il est 14h. L'heure du rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Eric.
À la une, la flamme olympique, elle a été allumée à 101 jours du début des Jeux de Paris.
C'est le symbole des Jeux Olympiques. La cérémonie d'allumage de la flamme a eu lieu sur le site antique d'Olympie en Grèce et elle a entamé son périple qui l'amènera jusqu'à Marseille le 9 mai prochain, puis Paris le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture.
Au Proche-Orient, la riposte israélienne se prépare après l'attaque iranienne de ce week-end.
Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a convoqué ce matin son cabinet de guerre pour la troisième fois en 4 jours. Pas de détails pour l'instant sur la date et l'ampleur de cette riposte. Le président iranien met d'ores et déjà Israël en garde. Toute action provoquerait une réponse sévère, étendue et douloureuse.
Remontada ou pas, football ce soir, match événement pour le PSG. Au Barça.
Oui, une semaine après la défaite 3-2, les Parisiens doivent battre le Barça ce soir en Catalogne pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Le match sera à vivre en intégralité dans RTL Foot dès 20h45.
Un mot sur la météo qui est, je crois, assez erratique.
Demain encore un temps à averse, voire des orages du centre-est en remontant vers le nord et le nord-est du pays, ainsi que sur les départements pyrénéens. Il neigera en montagne et le temps sera plus ensoleillé de la Bretagne au sud-ouest, soleil aussi vers la Méditerranée, mais avec du vent.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Alors, on est avec Cindy Hubert, journaliste police-justice à RTL. Ça va, Cindy?
Tout va bien.
Vous torture, vous avez faim, vous n'avez pas déjeuné?
Tout va bien.
Tout va bien. Bon, nous étions, il y a un instant, nous parlons d'Éric Dupond-Moretti, un ministre de la Justice, qui souhaite restaurer la responsabilité des parents d'enfants délinquants. C'est un projet de loi, hein?
C'est un projet de loi qui est encore en train d'être conçu. Vous entendiez tout à l'heure Béatrice Bougère, qui regrettait de ne pas y avoir été associée. Pour l'instant, c'est assez flou, on ne sait pas très bien où ça en est, on n'a pas d'échéance précise.
Donc, mais
il est encore en préparation.
La philosophie générale du gouvernement, c'est taper plus fort sur les parents des enfants délinquants mineurs, c'est ça, hein ?
Au pénal et au civil, sur les deux côtés.
D'accord. Et alors, j'ignorais ce que vous disiez, c'est-à-dire que souvent, en famille monoparentale, c'était la maman qui s'occupait d'élever les enfants qui devait payer s'il y avait de la casse. Désormais, on pourrait aller jusqu'à chercher la responsabilité du papa, même s'il a disparu dans la nature. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, on était avec Corinne. Alors Corinne, sa fille a volé à 17 ans dans le département de la Sarthe. On l'a appelée, elle a dit non, je viens pas, débrouillez-vous, je ne veux pas racheter les vêtements qu'elle a volés, première chose. Deuxième chose, et si elle est au commissariat de police, je voudrais qu'elle y reste un peu pour comprendre la gravité de son geste. Je ne vais pas venir tout de suite la récupérer. Voilà. Et puis finalement, vous l'avez récupérée, Corinne, et puis il s'est rien passé derrière. C'est ça, Corinne ?
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il est arrivé une autre fois où c'est elle, pour le coup, qui a aidé une jeune fille qui se faisait agresser dans le tramway. Elle a été convoquée quelques heures plus tard parce qu'ils avaient arrêté les agresseurs qui avaient 14 et 15 ans. Et le temps que la jeune fille porte plainte et que nous, enfin qu'elle puisse reconnaître les agresseurs sont ressortis du commissariat avant que tous les documents soient signés, en fait.
Mais quand
moi, je me dis, quelle est la leçon, en fait?
Alors, pour le coup, sur la question des délais, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a dit la justice, elle répond pas, elle donne pas de réponse pénale assez rapide. Il y a eu un nouveau code de justice des mineurs qui est arrivé en 2021. Avant, on était sur des délais très longs. C'est-à-dire qu'entre le moment où on poursuivait et le moment où il y avait le jugement qui était rendu, on était entre 15 et 18 mois, ce qui est énorme. Et depuis ce nouveau code de justice des mineurs, on est passé... En fait, on a créé un procès en deux temps. C'est-à-dire qu'on a une première césure avec... On dit, est-ce que la personne est coupable ou non? Et maintenant, on arrive à 2,5 mois, à 2 mois et demi. Et ensuite, 9 mois pour la sanction. Donc, pour le coup, sur les délais... La justice est devenue un peu meilleure. Après, là, on parle d'affaires graves, c'est-à-dire tout ce qui arrive en haut du panier pour les magistrats. Bien entendu, pour tout le reste, on va essayer de faire des mesures éducatives et il va y avoir aussi parfois des classements.
Cela dit, sur les agresseurs qui ressortent du commissariat dans un pays, la France, où lorsqu'une personne a une condamnation à un an ferme, on sait qu'elle n'exécute pas une peine dans un centre pénitentiaire, faut pas imaginer des miracles pour des gens qui commettent une agression de type mineur, hein, comme celle que vous décrivez, Corinne. Voilà, ils sont sortis du commissariat. C'est intéressant, d'ailleurs, je parlais avec Béatrice Brugère, justement, la magistrate qui a écrit ce livre sur changer la justice. Elle disait qu'il y a certaines démocraties européennes, comme les Pays-Bas, où on a toute la philosophie inverse à la France. En France, il faut faire beaucoup, beaucoup de choses, et au bout d'un moment, au bout de X méfaits, on vous incarcère. Voilà. Et aux Pays-Bas, notamment, on incarcère tout de suite, dès le premier jour, dès le premier méfait, même si c'est une peine très, très courte, on envoie en prison tout de suite, en estimant sans doute qu'un premier séjour dans un centre pénitentiaire, même très bref, de quelques jours, est de nature à dissuader. Voilà, c'est une philosophie totalement différente. En tout cas, vous, Corinne, vous avez expérimenté les choses et vous vous rendez compte d'une réalité, c'est que les parents sont finalement pas tellement concernés. On va prendre Jean-Michel, qui a fait le 32-10 également. Mon cher Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous avez fait le 32-10, pour quelle raison ?
Pour rajouter grand chose à tout ce qui a été dit. Déjà, il faudrait, comme on dit, que les peines qui sont en place soient exécutées. Alors après, est-ce que quand les gamins sont ados, il n'est pas déjà trop tard ? Est-ce que les gamins, il faut pas les les sermonner quand ils font, ou même leur apprendre la vie très très tôt dans leur vie, quoi, à partir de, je sais pas, moi, qui commence à aller à l'école. Moi, vous savez, quand j'étais, moi j'ai 58 ans, quand j'étais gamin, les seules choses que je craignais, c'était mon père et l'école et les profs. Hein, parce qu'on savait, moi j'avais un instituteur, bon, sans aller jusque là, mais moi quand ça allait pas, il nous attrapait sur le, au-dessus des oreilles, là, les cheveux qui poussent là, il nous décollait du siège. Hein. Alors il nous faisait ça une fois et puis on peut croire qu'on n'avait pas envie de recommencer. Hein. Alors il faut sans en revenir au châtiment corporel, mais aujourd'hui on laisse tout faire. Mmh. Alors après il y a aussi autre chose, c'est je sais pas comment ils sont, dans les écoles de magistrature, comment ça se passe, mais j'ai l'impression que les soit les juges des applications des peines ou les juges tout court, ils ont tendance à quand même à être un petit peu un peu trop cool avec tout ce qui est délinquance. Ne serait-ce que la délinquance routière, la délinquance au niveau des drogues. On entend toujours dire, quand il y a quelqu'un qui a fait une grosse connerie, une très très grosse même, il risque entre X années de prison et X milliers d'amendes. Mmh. Mais pourquoi c'est il risque? Pourquoi on peut pas dire il va prendre ça? Il y a toujours une
échelle. Raison, ça c'est une grosse, c'est la grosse arnaque, c'est le journaliste qui dit il risque jusqu'à tant, d'ailleurs il a raison de le dire, selon les termes de la loi, il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 80 000 euros d'amende par exemple, mais oui,
il risque. On pourrait pas dire, il prend 10 ans de prison.
Oui, merci Jean-Michel, vous avez raison, merci Jean-Michel. Cindy Hubert, on n'a plus qu'à attendre en gros, hein, les contours de ce projet de loi qui devrait sévériser la chose à l'endroit de ses parents. Hein.
Avec une opposition qui risque de revenir avec encore plus d'idées, donc le débat n'est pas fini.
Ah oui, une opposition qui risque de dire...
Proposer d'autres idées, oui.
Oui, d'autres idées, oui. J'avais un petit son à vous faire écouter, oh, vous voulez pas l'écouter, s'il vous plaît les amis. C'était Rachida Dati qui réagissait au débat, faut-il sucrer les allocs aux parents d'enfants délinquants? Écoutez ce qu'elle disait, Rachida Dati, pourtant elle est de droite, elle devrait dire, oui, il faut y aller, écoutez-la.
La responsabilité des parents, elle doit être évidemment restaurée, rétablie, confortée. Moi, je veux dire, je suis une famille de 12 enfants. Moi, mes parents se sont battus pour qu'on s'en sorte. Et parfois, il y en a un où ça peut tourner mal, parce qu'il a embarqué. Moi, je veux dire, moi, mon père, il avait du mal, évidemment, avec la délinquance. Un des nôtres a mal tourné. Qu'est-ce qu'on fait? On punit toute la famille?
Ah, intéressant comme débat, hein. Bon, les amis, on se retrouve dans un instant avec les églises. On va parler des églises. Il y a beaucoup d'églises en France, des dizaines de milliers. Beaucoup ne servent plus à rien. Il y en a une qui a été transformée en centre d'escalade. Est-ce que vous souhaitez, vous aussi, qu'on réutilise ces bâtiments des églises catholiques pour leur donner une deuxième destination? Oui, non, on en parle dans un instant.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet, 13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole,
avec Éric Brunet sur RTL.
Dans un petit village cher à mon cœur dans le Gers, il y a une petite chapelle sublime du 19e, avec une petite cure à côté, là, mais, hein, un bâtiment peut-être pour abriter le curé, et qui était abandonné. C'est un endroit magnifique, féerique, mais c'est abandonné, il n'y a plus rien à en faire, c'est terrible.
Et à Paris, de nombreux édifices religieux connaissent aujourd'hui une seconde vie. Le dernier exemple en date, vous en avez parlé à midi, une ancienne chapelle qui est devenue une salle d'escalade. Chaque année en France, une trentaine d'édifices religieux sont désacralisés. Ça veut dire qu'ils redeviennent des lieux comme les autres. Ils peuvent se transformer en salle de spectacle, en hôtel. À Rouen, une église est devenue un hôtel. Ça peut aussi devenir des bars, voire même des résidences pour les personnes âgées. Vous l'avez compris, on parle de la seconde vie des lieux de culte.
Vous êtes pour ou contre d'ailleurs, hein, c'est un vrai débat. Il y a des gens qui disent non, une église, c'est un lieu consacré, doit rester une église catholique, point barre. Voilà, Arnaud est avec nous. Bonjour mon cher Arnaud.
Bonjour Eric.
Vous allez bien?
Bonjour aux éditeurs, très bien, merci. Bah écoutez, moi je suis tout à fait pour. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois en Irlande, qui est un pays très catholique, et il y a une église là-bas, ou une chapelle, qui a été transformée en pub. Et c'est un endroit qui est d'ailleurs très agréable. Quand on va boire une bière, c'est un endroit atypique, et je trouve ça toujours très bien. Il y a une église dans chaque village de France, il y a beaucoup d'églises dans beaucoup de villes de France, et je trouve qu'il y a de moins en moins... malheureusement pour les catholiques, de moins en moins de pratiquants, et ça fait partie du patrimoine français. Donc je trouve que c'est bien qu'on convertisse des églises ou des chapelles pour d'autres activités, parce qu'on ne va pas laisser tomber en désuétude notre patrimoine architectural. Et si ça peut permettre de préserver l'architecture française, les églises et les chapelles de France, ben je trouve que c'est plutôt une très bonne idée.
Parce que les communes n'ont plus d'argent. Hein. Moi, je vous parlais de cette très très belle chapelle, pas très loin d'un village que je connais bien, dans le Gers. Cette très belle chapelle avec le bâtiment attenant où on logeait les prêtres et les ecclésiastiques. Jamais la petite commune de 150 habitants n'aura l'argent pour restaurer ça. Et tant que la région ne s'y met pas, elle va se détruire, elle va se démantibuler progressivement. C'est terrible. C'est terrible.
Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et on va pas vers des années où la région ou les maires ou même l'État aura de l'argent à dépenser dans ce genre de choses. On a déjà des difficultés financières, donc on a d'autres choses à faire comme économie plutôt que de restaurer notre patrimoine. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée.
Mais alors on fait quoi dedans? On les vend à des tiers qui en font une espèce de super loft. Je parle des petites chapelles, hein, pas des cathédrales. Voilà, qui font un appartement, on fait un EHPAD à l'intérieur, on fait un... Je suis pas trop inquiet pour les villes, moi, pour les grandes villes, mais je pense plutôt aux édifices religieux dans les zones rurales, quoi.
Bien sûr, à mettre un cahier des charges, il y a peut-être des choses qu'on ne mettra jamais dans une ancienne église. Peut-être un club échangiste, c'est un peu compliqué pour donner cet exemple, mais on peut faire plein de choses. Ça peut être un périscolaire, ça peut être un hôtel, ça peut être un restaurant, un bar, je sais pas, plein de choses.
Lisa Marie me disait tout à l'heure qu'il y avait à Londres des églises qui sont devenues des restaurants, c'est-à-dire des endroits où il y a plusieurs types de restaurants, un japonais ici, un tel autre endroit, un italien, etc. Tout ça dans une église, une ancienne église. Ouais.
Je pense que quand on est croyant, alors moi je suis athée, mais je suis d'une famille religieuse, parce que même ma sœur est prof de catéchisme, pour vous dire que je suis d'une famille religieuse, parce que j'habite en Alsace, et qu'il y a des profs de cathé en Alsace. Je trouve que dans la philosophie de la religion catholique, c'est quoi? C'est accueillir les gens. Donc je trouve qu'une église qui accueille des gens pour une autre activité que d'aller prier, ça a du sens.
Je suis plutôt d'accord avec vous. On va prendre Véronique qui a fait le 32-10 également. Bonjour ma chère Véronique, où êtes-vous?
Oui, bonjour. Actuellement, je suis dans un centre de rééducation depuis 3 mois.
Dans quel coin de France?
En Sarthe.
Ah, dans la Sarthe. Beaucoup d'appels de la Sarthe aujourd'hui. Alors Véronique, est-ce qu'il faut donner une deuxième vie à nos églises? Je rappelle quand même qu'il n'y a que 1,5% de Français qui vont à la messe un dimanche classique. J'enlève le dimanche de Pâques ou le réveillon de Noël. 1,5%, c'est pas beaucoup, Véronique.
Non, c'est pas beaucoup. Mais moi, je trouve ça très bien. C'est qu'un bâtiment qui sert à rien, moi, je trouve ça ridicule. Parce qu'il y a quand même des murs, il y a quand même un toit. On a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas de quoi se loger. Donc, laisser un bâtiment comme ça, sans rien, je trouve ça complètement bête. Par contre, qu'il serve pour des enfants, là, un mur d'escalade, il y a certaines personnes que ça peut choquer. Et on pourrait, par exemple, faire accueillir des chorales, des choses comme ça. Je trouve que ce serait pas mal. Mais le laisser à l'abandon, quand on voit ce que coûte effectivement l'entretien de ces bâtiments-là, c'est vrai que c'est pas facile pour les communes. Moi, j'ai un fils qui, pendant 2 ans, a posé des vitraux sur le chantier, parce qu'il est verrier. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui est difficile et c'est vrai que ça coûte très cher.
Oui, ce qui coûte très cher aussi, c'est la restauration de ces bâtiments. Hein. C'est Stéphane Bern qui se bat pour ça, mais bon sang, ça serait bien. La France est la première destination touristique du monde. Grâce au tourisme, nous engrangeons de l'argent. Il faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus attention à notre patrimoine. Merci Véronique, merci Alnou, merci Arnoux, pardon. Merci à vous tous. Cyprien Signy arrive, on va parler du programme. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
RTL, bonsoir.
Bonjour donc. Hein. RTL, bonsoir, 18h20.
Je vous ai dit bonsoir là encore.
Ouais.
C'est une maladie.
C'est pas grave. La vie est dure.
Je vais me coucher.
Pardon ?
Je vais me coucher.
Non, restez avec nous. Donc ce soir, on recevra la femme du jour. Vous savez que c'est la femme du jour ?
Non, dites-moi.
Laure Manaudou.
Ah bah oui !
Première porteuse de la flamme olympique, évidemment. Ouais. Elle sera avec nous depuis Olympie. Formidable Laure Manaudou, on va prendre de ses nouvelles. Elle nous dira si elle a envie d'aller se baigner dans la Seine, elle aussi, tiens. On parlera également.
En attendant, elle va peut-être se baigner dans la mer Méditerranée si elle est en Grèce.
Mais peut-être, Laure Manaudou, il fait beau. Ouais. On parlera également des salaires des grands patrons. Vous en avez beaucoup parlé avec les auditeurs, on prolongera le débat. Et on recevra également l'acteur Ahmed Silla, acteur humoriste très populaire, très positif. Il est super sympa, il sera avec nous à partir de 19h. Et puis on vous offre dans le grand quiz d'RTL Bonsoir une semaine pour 4 chez Bellambra, dans le club Bellambra de votre choix. Une semaine de vacances à gagner. C'est ce soir dans le grand quiz d'RTL Bonsoir. Pour vous inscrire 3210 dès maintenant ou vous appelez, vous envoyez bonsoir au 64 900 par SMS. Vous serez peut-être tiré au sort pour jouer avec nous.
Merci Cyprien. On va s'envoler dans quelques instants, Lisa Marie.
On prend l'avion tout de suite, 13 heures de vol pour retrouver notre auditeur du bout du monde et pour deviner où il se trouve, comme tous les jours, indice sonore.
On a little street in Singapore.
Ah ouais, il le dit.
Il le dit, en plus vous avez donné l'indice 13 heures de vol.
Vous trouvez pas 13 heures de vol, ça peut être n'importe où.
Oui, ça peut être n'importe où. Mais enfin là, on a double indice et on a compris qu'on n'allait pas en Andorre, ni au Liechtenstein.
On va pas en Andorre. Et si vous avez trouvé pour remporter un guide du routard, il suffit de nous écrire tout de suite sur l'application RTL.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brut.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Alors Victor, où est l'auditeur du bout du monde aujourd'hui ?
Eh bien, je trouve à Singapour et c'est Bertrand à Grenoble qui remporte un guide du routard.
Allez, bouclez vos ceintures, on y va, 13 heures de vol.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour Bertrand.
Oui, c'est Bertrand, encore un Bertrand.
Encore bonsoir. Un Bertrand.
Bonsoir Bertrand, il est 20h je crois chez vous.
Oui, il est 20h25 à peu près à Singapour. Oui, on est au cœur de l'Asie du Sud-Est.
Que voyez-vous par la fenêtre ?
La nuit, figurez-vous que c'est les tropiques, donc il fait nuit à 19h, 19h15, il fait nuit noire.
Mais alors Singapour, c'est une ville, presque une ville-État. Vous êtes dans le vertical, dans les tours, il y a tellement de tours dans cette ville, c'est un peu oui, New York en Asie, ou vous êtes dans une maison au ras du sol ?
Non, vous avez tout à fait raison, j'habite au 18e étage, figurez-vous. Mmh. Et donc c'est effectivement très, très, très vertical, c'est un tout petit pays de 5 millions d'habitants, mais avec un territoire qui est essentiellement urbain, avec pourtant aussi quelques zones de forêt tropicale qui sont préservées par l'État singapourien.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis professeur des écoles, instit. Et je travaille dans les établissements français de l'étranger, un peu partout dans le monde depuis un peu plus de 20 ans maintenant.
Alors, vous avez quitté la France il y a un peu plus de 20 ans, mais vous avez été où, dans quelle destination avant d'être à Singapour ?
Alors, nous avons commencé par les États-Unis. Nous sommes partis avec ma compagne Laurence, qui est originaire de l'Hérault, et moi qui suis d'Alsace. D'abord San Francisco, ensuite on est venu à Singapour une première fois. Et puis ensuite, ça a été un petit peu un retour avec San Diego, la Thaïlande 2 années, et puis dernièrement le Mexique pendant 5 années.
Oh, vous êtes fait
vous n'arrêtez pas.
Vous êtes fait une vie de rêve de grand voyageur, vous.
Ah, c'est justement le voyage a été la motivation numéro un au départ, et puis après, une fois qu'on y a goûté, c'est difficile de.
Mais comment on peut voyager ? Alors, j'imagine que vous n'avez pas d'enfant.
Si. Ulysse, mon fils qui vient d'avoir 18 ans, est né à San Francisco, et ma fille Justine, qui a 2 ans de moins, qui a eu 16 ans en décembre, est née à Singapour lors de notre première étape.
Alors, ils ont toujours suivi le mouvement ?
Toujours, ouais. Toujours. Ils n'ont jamais vécu en France. Par contre, ils connaissent la France l'été et ils passent le bonjour à leurs grands-parents d'Alsace et de l'Hérault. Ils connaissent la France quand même assez bien l'été, mais ils n'y ont jamais vécu plus de 2 mois d'été.
Quelle vie !
C'est génial. Hein. Alors Bertrand, il me semble que la vie est chère à Singapour. Vous disiez, vous êtes professeur des écoles. Est-ce qu'un instit gagne mieux en travaillant comme ça dans des écoles à l'étranger ?
Oui, alors ça dépend. Si vous êtes dans un pays d'Afrique ou même au Mexique, le salaire en local peut être moindre qu'en France. Ici à Singapour, il est bien supérieur à la France, bien sûr, parce que les loyers sont astronomiques. C'est une des villes les plus chères du monde. Les transports sont très chers. La nourriture, ça va encore à peu près, mais les loyers sont adaptés au niveau de vie du pays.
Mmh. D'accord. Mais et quand on est prof comme ça et qu'on va de pays en pays, vous êtes payé par l'éducation nationale, vous êtes payé par le pays qui vous emploie, où vous vous trouvez, comment ça se
oui.
passe?
Alors, c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs statuts. Nous, on a connu un peu tous les statuts pendant les 20 années. Vous pouvez être en contrat local, donc vous payez vos impôts dans le pays et vous êtes payé dans la monnaie locale. Vous pouvez être détaché de l'éducation. Et donc là, vous êtes payé en France et vous payez les impôts en France. Et donc là, pour nous, moi-même, je suis détaché en ce moment jusqu'encore pendant une année D'accord. et demie. Et puis ma compagne est en contrat local ici.
D'accord. Bon, alors on va parler de Singapour. Il paraît que si on crache son chewing-gum par terre, on va en tôle.
Oui, bah oui, ça c'est un peu les mythes. Vous savez, un peu comme les États-Unis vu d'Europe. Oui, non, le chewing-gum est interdit, mais enfin bon, il y a plein de jeunes qui consomment des chewing-gums. Par contre, il y a des lois très très dures au niveau des drogues, des armes, ce genre de choses, du trafic d'animaux. Mais pour le quotidien, c'est tout à fait.
Oui, alors Singapour, c'est le pays au monde où il ne vaut mieux pas fumer un pétard.
Ça oui, vous pouvez très facilement être expulsé et avoir de gros, gros soucis. Ouais.
Que dire de ce pays, alors, de cette grande mégalopole de 5 millions d'habitants comment la décririez-vous pour nous intéresser?
Ouais, moi, je dirais que c'est un des pays, pour avoir connu les États-Unis et l'Europe, c'est un des pays les plus développés du monde en matière de transport, en matière de déplacement dans la ville, en matière de voyage, parce qu'on peut aller vraiment partout en Asie du Sud-Est à deux heures, même à une heure. Il y a plein de destinations. Bornéo, le sud de la Thaïlande, le nord de l'Australie n'est qu'à une heure, Darwin n'est qu'à une heure. Bref, c'est un lieu de voyage presque sans limite. Et c'est une ville très moderne, un pays bien géré, autoritaire, vous avez tout à fait raison, autoritaire, avec un certain nombre de choses qu'il faut respecter. Mais je vous assure que les expatriés d'Allemagne, d'Espagne, de France sont plutôt heureux ici.
Très bien, formidable carte postale que nous fait Bertrand, 53 ans, professeur des écoles, qui est désormais donc là-bas, à Singapour, après avoir enseigné à San Diego. Vous enseignez le français, vous enseignez le français, hein?
Oui, je suis professeur des écoles français, j'enseigne à des enfants qui sont croates, thaïlandais, singapouriens, etc. Mais le français, j'enseigne les programmes français comme un institut de France, avec des collègues anglo-saxons aussi, bien sûr.
Merci à vous, Bertrand. C'était chouette, hein, cette petite embardée du côté de Singapour. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Alphonse.
Ouais, bonjour Eric.
Rebonjour. Dans un instant, nous allons
au Canada. Voilà, exactement. Il voulait tuer sa femme et pour ça, il a posé une bombe dans un avion de ligne. 23 morts. À tout de suite.
Quelle histoire. À tout de suite. Bel après-midi à l'écoute d'RTL. Au revoir,
les amis.
À demain.